Bonjour. Vous allez écouter une interview de Benoît Marie, réalisée par le blog Voyage en voilier. Il nous parle entre autres de sécurité en mer, nous donne sa méthode pour choisir quel matériel embarquer en longue navigation, ainsi que des astuces pour le routage VTO. Ce skipper professionnel nous dévoile également comment il en est arrivé aujourd'hui à concevoir des prototypes de bateaux sur foil. Nous recevons aujourd'hui Benoît Marie, vainqueur de la Mini Transat en 2013. À la fois navigateur, ingénieur et conférencier, il s'est spécialisé depuis dans les bateaux sur foil. Vous pouvez retrouver sur le site benoîtmarie.com. Bonjour Benoît, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment tu en es arrivé là ?
Ouais, bonjour, effectivement, moi j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai commencé l'optimiste comme pas mal d'enfants quand j'avais 7 ans avec des parents qui m'ont fortement incité à faire de la voile puisque c'était leur passion respective. Et je me souviens, enfin moi, des premiers souvenirs d'enfance, c'était sur le bateau des voisins, de nos voisins en habitant en région parisienne à l'époque. Et les premiers souvenirs d'enfants que j'ai, c'est les nuits en mer avec mes parents sur ce petit bateau en bois. C'est un chassiron qui s'appelait Andromède. Et ce qui est rigolo, c'est que ce bateau-là appartenait ouais, à la famille Viat, et Louis maintenant est aussi dans le milieu de la voile professionnelle également. Donc c'est assez rigolo de s'être retrouvé 20 ans plus tard. Et donc j'ai fait de l'optimiste. En compétition, enfin d'abord en école de voile puis en compétition, puis j'ai fait des études d'ingénieur pour me spécialiser dans la voile de compétition. Et donc j'ai toujours rêvé de faire de la course au large et de faire la Mini Transat, qui est le point de départ de pas mal de carrières professionnelles. Et c'est ce que j'ai fait en 2013 après 2 ans de projets, et ça s'est bien passé puisque j'ai gagné du premier coup, et c'est ce qui m'a lancé ma carrière sportive que je poursuis depuis sur des bateaux à foil, donc voilà, de toute taille.
Ok, et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail?
Ce qui me plaît le plus, c'est différentes choses. Moi je suis un technicien. Donc moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la technique, faire avancer les bateaux le plus vite possible, réfléchir à leurs améliorations, comment voilà trouver des petites innovations, des petites améliorations un peu partout, que ça soit en aéro, en hydro, en structure, en système, en tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment la technique qui me plaît bien sur les bateaux de haute performance. Hein. Et puis une autre facette que j'aime énormément, c'est le voyage, qu'on n'est pas obligé de faire en course, mais que je trouve sympa de voyager. Donc les courses au large, on rejoint un autre continent, un autre pays, une autre culture. Enfin pour moi, c'est assez magique. Enfin c'est toujours magique, qu'on le fasse en croisière d'ailleurs ou en compétition, c'est la même chose. Et puis sur les circuits internationaux, c'est un peu pareil, même si on prend la voiture ou l'avion, ça reste une confrontation de culture différente auprès de personnes qui viennent de plein d'autres endroits sur la planète, quoi. Donc voilà. Et puis un autre truc que j'aime vraiment, c'est la gestion de l'énergie de l'équipage, enfin la gestion de l'équipage et les interactions sociales et humaines en mer. Je trouve que c'est super sympa. Ce qu'on peut vivre en mer, c'est souvent des moments très forts. Et donc, voilà.
Alors, tu es le vainqueur de la Mini Transat de 2013. Tu as donc traversé l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m en 18 jours. Comment est-ce que tu as fait pour tout gérer seul à bord ?
Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'effectivement, c'est 18 jours tout seul sur l'Atlantique, en course. Mais c'est surtout 2 ans de projet sur lequel, pendant lesquels on prépare cette traversée. Donc, on se lance pas du jour au lendemain. On a 2 ans pour la préparer. On y va par étapes. Donc la première étape, c'était de naviguer une journée, enfin pendant la journée, avec au moins une personne avec moi pour m'aider à gérer, puis une nuit en double, puis des courses de différentes tailles, puis une sortie, une petite sortie en solitaire, puis une longue sortie en solitaire, puis un parcours de qualification de 1000 miles en solitaire, puis un aller-retour aux Açores en course et en solitaire, et puis un an plus tard, donc au bout de la deuxième année, finalement, cette traversée de l'Atlantique. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quand même 2 ans d'apprentissage qui mènent à cette grande traversée. Et du coup, sur ces 2 ans, on a le temps de se poser les questions, les bonnes questions, de faire les erreurs ou d'éviter de faire les erreurs. Enfin bon, bref, d'apprendre pour être prêt 2 ans plus tard à traverser l'Atlantique en solitaire sur un petit bateau. C'est 2 ans de préparation qui sont hyper importantes parce que la caractéristique de la mini, c'est que on n'a pas de communication, que y a pas de téléphone, il y a pas d'ordinateur, il y a pas d'internet, il y a rien. On peut juste communiquer via la VHF avec les bateaux qui sont autour, hein, dans un rayon de quelques milles, et bah y en a pas beaucoup quand même au milieu de l'Atlantique. Surtout que mon année, on était un peu échappé par devant, donc j'étais vraiment en contact avec personne pendant quasiment toute la traversée. Mais voilà, alors après, c'est de la préparation, savoir où sont les limites du bateau, mes limites personnelles, savoir quand dormir, avoir préparé le parcours, la météo, le bateau, avoir emmené tout pour réparer, et à la fois pas trop pour pas être trop lourd, avoir préparé de la nourriture qui nous plaît, savoir dormir par tranche de 10 à 20 minutes, gérer son sommeil, voilà, il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est vraiment au bout des 2 ans que moi je me suis senti à l'aise avec avec ce projet, et puis j'ai fait ce saut dans l'inconnu qui était cette transat. Et voilà, c'était un moment très très fort et que, enfin, j'en garde un excellent souvenir, quoi. Même si c'était pas toujours facile, ça reste un des moments forts de ma vie.
Donc, par exemple, pour les quarts de nuit, tu t'étais préparé avant le départ à réguler ton sommeil ou ce genre de choses?
Ouais, alors, est-ce qu'il... Moi, j'ai toujours voulu faire la mini transat depuis que j'ai 11 ans, et du coup, j'étais un peu timbré, comme dirait ma sœur. Étant gamin, je voulais préparer la mini, et donc, j'imaginais que j'étais sur un bateau, puis je dormais fenêtre ouverte, volet ouvert, un peu n'importe quand, enfin un peu tous les jours de l'année, pour apprendre à dormir avec la lumière, avec le bruit, et d'arriver à être un peu plus maître de mon sommeil. Qu'avant. Donc du coup, j'avais déjà cette aptitude à pouvoir un peu dormir n'importe quand, n'importe comment. Et puis j'ai été suivi, j'ai fait des formations avec des spécialistes du sommeil pour se connaître personnellement, connaître les moments qui sont propices au repos, connaître les signes de ce qu'on appelle les portes de sommeil, qui nous font entrer directement dans le sommeil profond, donc gagner un peu de temps de repos tout en restant éveillé. Et puis voilà, puis après, tout ce qui est organisation pour gérer son énergie, c'est toutes les courses de préparation ces 2 ans de projet, quoi.
Oui, c'est vrai que du coup, ça fait donc vraiment beaucoup de préparation. C'est intéressant.
Ah ouais. C'était 2 ans de préparation full time, quoi, à temps plein, de moi-même. Et puis j'étais entouré de spécialistes, donc les spécialistes techniques pour la préparation du bateau. J'étais hébergé par une structure qui gérait les projets de Jean-Pierre Dick, enfin qui gère toujours les projets de Jean-Pierre Dick, d'ailleurs, qui s'appelle Absolute Dreamer. Et donc les techniciens venaient me voir, j'allais leur poser des questions techniques sur le bateau, les questions voilà, de d'avitaillement, d'assurance, de tout quoi, tout ce qu'on peut venir, enfin toutes les choses qui peuvent se passer. J'avais un entraîneur aussi, j'avais 4 experts météo pendant la transat qui m'ont donné des briefs avant le départ. Et puis j'avais il y a un truc qui m'a vachement aidé aussi, c'est que je suis allé poser cette question à pas mal de gens qui sont passés par la Mili-Transat avant moi, qui étaient qu'est-ce que tu retiens de la Transat, qu'est-ce que tu referais pareil ou au contraire ne referais pas pareil. Et ça c'était super intéressant d'avoir cette démarche, parce qu'en fait c'était une manière d'acquérir l'expérience que je n'avais pas, et c'est, je pense, que ce qui m'a permis d'avoir ce beau résultat, enfin même ce résultat incroyable du premier coup quoi.
Oui, c'est sûr que c'est un résultat incroyable pour une première course, en effet, enfin une première grande course.
Je reviens toujours pas.
Et du coup, donc toi, t'es donc entouré de toute une équipe quand tu prépares ton voyage. Qu'est-ce que donc si on parle de la sécurité à bord, nous, ceux qui nous suivent, ce sont souvent des familles qui préparent donc un voyage certes en croisière, mais qui sont donc qui se préoccupent beaucoup de leur sécurité en mer. Et et vous, donc, quel type de matériel de sécurité vous embarquez en course et qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait être adapté aussi en croisière?
Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, on a les mêmes problématiques, hein. Quand on est en course, en équipage, en solitaire ou en croisière, le but, il est exactement le même. La finalité de l'expérience, c'est pas de gagner la course, c'est d'abord d'arriver en vie de l'autre côté. Et ça, faut surtout pas l'oublier. Je me souviens d'un alpiniste qui m'avait dit un jour, l'Everest est le sommet le plus dangereux du monde, parce que souvent les gens se trompent d'objectif. Leur objectif est d'aller escalader l'Everest et non pas d'en redescendre. Et du coup, c'est ce qui fait que les gens, il y a pas mal d'alpinistes qui font les quelques mètres en trop, qui les relient au sommet et qui leur coûtent la vie. Et donc ça, faut jamais oublier ça. Quand on fait un sport ou qu'on utilise les éléments qui sont plus forts que nous, quoi, hein, que ce soit en montagne ou en mer, notre objectif, faut pas oublier que c'est toujours d'arriver entier, quoi. C'est ce qui fait qu'un bon marin est capable de s'arrêter au port avant même qu'il ait des vrais problèmes, quoi. Donc du coup, je pense que c'est hyper important d'avoir bien ça en tête. Avant le départ, l'objectif en croisière, c'est d'arriver avec tout le monde à bord, en bon état, si possible sans avoir traumatisé qui que ce soit. Donc ça veut dire gérer le bateau de la manière adéquate, c'est-à-dire prendre les riz quand il faut, pas se laisser dépasser, être en avance de phase par rapport aux éléments. Donc quand un front arrive, on va prendre les riz en avance et plutôt que se faire déborder par le bateau. Voilà. Après, en termes d'équipement de sécurité, il y a un truc qui est hyper important, et en solitaire, c'est le seul qui compte, c'est qu'il faut rester à l'intérieur des filières. Parce que si tu passes de l'autre côté, t'es mort. Et ce, même si t'as un gilet ou même si tu as une longe, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est être toujours accroché au bateau. Ça, c'est le truc qu'on nous apprend dès le début. Il faut être accroché au bateau, ça c'est indispensable. À partir du moment où on passe la tête par la descente, il faut être accroché, et accroché court surtout, et au centre du bateau. C'est-à-dire que si tu t'accroches sur la filière, si tu arrives à passer par-dessus la filière, tu seras loin du bateau, tu pourras pas remonter, quoi. C'est arrivé à un de mes copains quand même pendant la mini au départ. Lui, il était accroché court. Il avait une double longe, il est passé par-dessus bord pendant un changement de voile, et c'est le fait d'avoir une double longe et être court qui l'a sauvé, parce qu'il a pu accéder il s'est fait traîner à moitié sous le bateau pendant quelques mètres, enfin ou quelques secondes, quelques minutes, je sais pas, avant de pouvoir aller à l'arrière et puis ouvrir la bastac qui a fait démater son bateau. Après, il a dû couler le bateau à moitié pour en le remplissant d'eau, pour en ouvrant la trappe de sécu pour pouvoir remonter à bord. Il était incapable de remonter à bord tout seul. Tout ça pour dire, sans vous effrayer, mais que en fait ça serait pas arrivé si il s'était attaché court, et surtout s'il avait décidé, comme tous les solitaires, de freiner avant de faire son changement de voile, quoi, plutôt que le faire sur la route et quand le bateau saute, quoi. Donc c'est un peu con, mais ça a failli lui coûter la vie, quoi. Donc du coup, bah, l'objectif c'est toujours d'anticiper, de pas prendre de risques. En tout cas, de mesurer les risques. Quand il y a quelqu'un qui va faire une manœuvre, et ça d'ailleurs, j'ai fait la mini, mais j'ai aussi traversé l'Atlantique sur le maxi trimaran massif en 2017 sur The Bridge, qu'on a remporté aussi. Et là, les règles étaient très claires. C'est un bateau qui va à 30 ou 40 nœuds très facilement. Mais la règle, c'est que quand quelqu'un sort du cockpit, on peut pas se permettre de le perdre ou voilà. Donc du coup, bah c'est, on ralentit, et la règle c'est pas d'eau sur le pont. Donc il faut freiner le bateau, le mec qui est à la barre, il a l'ordre de ralentir le bateau autant que possible jusqu'à temps qu'il y ait plus d'eau sur le pont, pour que les mecs sur le pont puissent faire la manœuvre rapidement et surtout en sécurité, quoi. Donc voilà, donc j'insiste là-dessus, ce qui est important c'est de rester à bord et d'avoir un comportement marin te fait prendre le moins de risques possible pour ton équipage et pour toi-même, sachant que si tu passes à l'eau, que tu sois en solitaire ou en équipage, c'est à peu près le même taux de chance d'être rattrapé, c'est-à-dire que c'est à peu près zéro, quoi. Si t'es en équipage, t'as une petite deuxième chance, mais elle est tellement petite. On a eu, moi je me souviens très bien des briefings des pilotes de l'armée de l'air qui vont secourir les marins en mer, et ils nous ont passé des vidéos de sauvetage où on voit juste pas les bateaux qui font 18 mètres dématés depuis l'avion. Ça, on les voit pas, donc un mec dans l'eau, on a quasiment aucune chance de le retrouver, quoi. Voilà, donc bon, désolé de vous faire un peu flipper là-dessus, mais voilà, bon, ce que je veux dire c'est que c'est vraiment hyper important de s'accrocher au centre du bateau avec une longe qui est plus courte que ce qui... Enfin, qui est assez courte pour ne pas passer de l'autre côté de la filière, premièrement. Puis après, bah voilà, mettre un gilet, ça peut sauver si on tombe à l'eau. Et ben la nuit, typiquement, moi j'ai toujours mon gilet, même si je suis en équipage. C'est une règle que j'ai. À partir du moment où je suis hors de l'intérieur du bateau, j'ai toujours mon gilet. Et puis comme ça, si jamais je me fais bousculé par une baume ou un truc comme ça, bah, et que je suis inconscient, bah, j'ai quand même une deuxième chance, quoi. Voilà. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est, un truc qui peut être pas mal pour, justement, avoir une deuxième chance. C'est d'avoir une PLB, donc une Personal Localization Beacon, un truc comme ça. C'est une petite balise, personnelle, AIS, qui permet, au bateau de retrouver, ceux qui sont passés à l'eau en suivant sa trace AIS. Donc pour ça, l'AIS est un super moyen de sécurité, pour retrouver les mecs qui sont tombés à l'eau. Et un petit exemple, c'est que par exemple, malheureusement, le dernier naufragé, enfin il y en a qui est tombé à l'eau sur la dernière Volvo Ocean Race, ils l'ont pas retrouvé parce que justement la yes du bateau était en panne. Et voilà, ça tient juste à ça. S'ils avaient juste allumé la yes qui fonctionnait, bah il aurait une deuxième chance, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est des trucs qui valent pas beaucoup d'argent, mais qui peuvent sauver des vies. Donc je pense que la yes fait partie du matériel de sécurité qui, pour moi, est indispensable à bord, quoi.
Au niveau du matériel de rechange pendant les courses, qu'est-ce que vous sélectionnez pour embarquer ce qu'il faut sans en avoir trop?
Ouais, effectivement, bah nous, il faut qu'on soit le plus léger possible, et puis les budgets sont limités, donc il faut souvent choisir. Ce qu'il faut, c'est se poser la question de quel est le matériel vital dont j'ai besoin pour aller à bien, enfin aller jusqu'au point d'arrivée dans des bonnes conditions. Donc moi je vais entre guillemets, je vais classer tout le matériel que j'ai à bord sur un vital, deux ça serait quand même bien, et trois bon c'est optionnel. Donc typiquement tout ce qui est vital, c'est tout ce qui me permet de passer en gros une bonne traversée sans péter un plomb. Donc typiquement bah tout ce qui est système de gouverne, c'est-à-dire pilote automatique, les capteurs qui vont dans la boucle de pilote automatique également, tout ce qui est drosse de barre ou lien avec les safrans, et puis bah tout ce qui tient le mât ou la quille, ça donc typiquement c'est quelque chose où moi je me suis interdit d'avoir le moindre doute là-dessus. Donc même si ça coûtait cher et que j'avais pas le budget pour, j'ai changé mes paliers de quilles qui tenaient ma quille, j'ai changé mes axes de hauban qui tenaient mon mât, j'avais un pilote automatique de spare que j'avais testé avant en entraînement, et ça c'est, j'insiste là-dessus parce que quand j'ai testé ça marchait pas parce que je me suis dit ouais c'est un pilote de spare, mais en fait effectivement mais ça fonctionne, enfin ça peut, c'est utile que si ça fonctionne. Et le seul truc que j'avais pas changé, bah c'était les ce qui tenait les safrans, et parce que j'avais vu le fabricant du bateau qui m'avait assuré que c'était la 13e version, et donc elle était hyper solide, que ça tenait le coup. Et tiens, voilà, au deuxième jour de la transat, le truc a commencé à péter. Donc j'ai trouvé une manière de les réparer. C'était une cornière en carbone en U qui était délaminée, donc elle n'était pas encore cassée, mais elle avait plus de tenue structurelle. Donc j'ai fait un brêlage avec des cordages pour l'éviter de dandiner d'un bord sur l'autre et de reprendre sa rigidité pour éviter de casser, quoi. Donc voilà. Donc mon conseil, c'est de vraiment identifier faire une liste de tout ce qui est indispensable. Donc pour moi, c'est tout ce qui est lié à la sécurité, tout ce qui tient le gréement, tout ce qui tient la quille, l'étanchéité du bateau, et puis pilote automatique. Donc ça, si ça tient, on est à peu près sûr d'aller à l'endroit où on veut aller. Et puis après, bah, ce qui serait bien, dans les choses indispensables, c'est aussi la bouffe et l'eau. Ça a l'air tout con, mais moi, sur la Transat, j'avais pris une quantité de jours. Je savais que la deuxième étape, c'était 13 jours. J'avais pris, en gros, 14 jours ou 15 jours de bonne bouffe, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est important, la bonne bouffe. Puis après, j'avais pris 4 à 6 jours de lyophilisé, donc pas bon, mais par contre, et assez léger, mais par contre, qui me permettrait de survivre, quoi. Et pour l'eau, pareil, j'avais pris le minimum d'eau possible, mais je me suis toujours gardé un stock en cas de dématage, que je puisse tenir quelques jours de plus que prévu, quoi. Donc même si j'étais plus rapide que les prévisions, je consommais, du coup je vidais les bidons d'eau que j'avais en trop pour la course, mais j'en gardais quand même assez pour survivre en cas de dématage, quoi. Donc ça c'est assez important, je pense, pour moi, de bien savoir ce qui est indispensable à la survie et ce qui ne l'est pas, quoi. Donc typiquement les pièces du moteur, pour moi typiquement ça c'est pas indispensable, parce que un bateau à voile, s'il a des voiles qui tiennent la route, on arrivera toujours à l'arrivée. Et puis au pire, si les conditions ne sont pas bonnes pour faire pour rentrer dans le port, parce que on n'a plus de moteur, on peut aussi attendre ou demander assistance aux zodiacs du port pour nous aider. Nous en mini, on n'avait pas de moteur, donc du coup on faisait des entrées de port à la voile. Ça nous apprend que le jour où il y a tempête, on rentre pas dans notre place qui est trop petite et tout proche des autres bateaux, mais on fait demi-tour et puis on va se poser dans un gros ponton où il n'y a pas de risque de casser le bateau ou casser les autres, et puis on va demander l'aide à la capitainerie de se remettre à l'endroit où on doit être un peu plus tard, quoi. Donc voilà, donc tout ce qui est pièces de moteur, c'est pas indispensable. même si c'est quand même agréable d'en avoir. Et voilà, donc je pense que c'est à chacun de faire sa liste, mais c'est une manière assez simple de savoir si c'est indispensable ou pas, quoi, tout ce qu'on a.
Très bien. Bah, comme tu le rappelles, c'est vrai que la sécurité est vraiment primordiale en mer. D'ailleurs, ça passe aussi par les prévisions météorologiques, puisqu'on est totalement tributaire des éléments en mer. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là, comment être sûr d'avoir un bon créneau météo avant de partir sur une longue navigation?
Ouais, effectivement, ça c'est hyper important. Comme je l'ai dit, le meilleur marin, c'est celui qui arrive à refuser, à dire non et à faire demi-tour. Donc la première des choses avant de partir en mer, c'est de ne pas avoir d'impératif, premièrement, c'est-à-dire que aller déposer un équipier à un endroit précis, à une date précise, c'est le truc à pas faire, parce que c'est ce genre de comportement qui peut nous faire justement déroger à la règle du bon marin, quoi. Hein. Bonne raison d'aller déposer quelqu'un à un endroit à une date précise. Si la mer est mauvaise, faut juste pas y aller, hein, c'est tout. Premièrement. Deuxièmement, comment préparer? Bah ouais, il faut regarder la météo, regarder en course, nous on regarde la route la plus rapide, mais avant de regarder la route la plus rapide, on s'assure que ce soit une route qui soit safe, quoi. C'est-à-dire que on va regarder s'il n'y a pas un coup de vent sur la route, donc du vent fort, de la mer aussi, il peut y avoir des vagues importantes. Donc avant de prendre la mer, moi ce que je conseille aux plaisanciers comme aux régatiers d'ailleurs, c'est de regarder, c'est déjà se faire son cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de cette traversée, ou de, ça peut être une petite ou une grande traversée d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'attends de cette traversée? Est-ce que c'est d'aller le plus vite possible à tout prix? Dans ces cas-là, bah ouais, si c'est en course, on sera prêt à prendre une route qui sera pas forcément la plus agréable. Ou est-ce qu'au contraire, c'est je m'en fous un peu du temps que je vais mettre. Ce que je veux, c'est passer un bon moment, ne pas faire trop de prêts, parce que je pense qu'on est tous d'accord que le prêt c'est pas cool. Donc dans ces cas-là, bah il faut être prêt à passer un peu plus de temps à l'endroit où on se retrouve avant de partir, et puis de choisir une fenêtre météo qui soit safe et qui nous limite tout ce qui est désagréable, quoi. Donc voilà, donc pour ça faut se poser un peu les questions météo, aller regarder les différents sites météo, et puis essayer de lire les cartes isobariques. En plus, c'est assez rigolo, je trouve, quand on commence à comprendre ce qui se passe dans le ciel, et ben on se sent vachement plus en sécurité sur le bateau, et puis c'est un petit côté chaman qui est hyper sympa, je trouve, d'arriver à lire les nuages, quoi.
Et tu aurais une petite astuce de pro pour ceux qui planifient leur croisière au niveau du routage météo, pour réaliser son propre routage météo?
Ouais, effectivement, moi en préparation de la mini, et d'ailleurs aujourd'hui j'utilise encore, j'utilisais que ça d'ailleurs sur la préparation de la mini, c'est un petit logiciel qui s'appelle Squid, donc comme le poulpe en anglais, d'une compagnie qui s'appelle Great Circle, une compagnie belge, et en fait c'est un petit logiciel qui est gratuit, qui permet de faire de la météo, de télécharger les fichiers GRIB, donc les fichiers météo, tout, hein, de la photo satellite au fichier de vent, en passant par les observations, enfin il y a tout ce qu'il faut là-dessus. On peut choisir les fichiers météo que l'on souhaite, les fichiers américains, anglais, français, voilà. Donc pour les experts, on peut vraiment rentrer dans ce puits qui est de savoir, enfin de puits d'informations qui est ce logiciel. Mais surtout, ce que je trouve hyper intéressant en croisière, autant qu'en convoyage ou en course, c'est quelque chose que j'utilise de manière quasi, enfin j'utilise que ça. C'est un petit outil qui s'appelle le Best Start, donc le meilleur départ, qui te donne ton temps de parcours en fonction de ton heure de départ. Donc en gros, tu lui dis, bah, moi je veux partir entre, j'ai une plage de départ de à peu près, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, mais de, j'ai 4 jours et je, tu lui demandes de faire un routage toutes les heures pendant 4 jours. Donc t'as un bateau qui part toutes les heures pendant 4 jours et lui il te trace ton temps de parcours en fonction de ton heure de départ. Et ça, ça permet de voir quand il y a des sauts dans la courbe. Ça peut, tu peux aussi voir quel est le trajet qu'il va faire. Donc lui, il te sort le trajet, enfin le routage, quoi, qu'il te propose. Et ça, ça te permet de voir à quel moment tu as des phénomènes météo qui te font changer de route. Donc ça, c'est intéressant pour typiquement optimiser si tu veux surtout pas faire de prêt, par exemple, ou si tu veux éviter la tempête. Tu peux aussi lui mettre ces petits paramètres. Tu peux aussi lui mettre d'ailleurs de faire du moteur en dessous d'une certaine vitesse. Donc c'est vraiment optimisé pour les plaisanciers. Et ça, c'est un petit outil gratuit du coup qui est hyper utile en croisière et c'est hyper facile à utiliser. Et pour moi, bah, ça peut vous faire en sorte de passer des bons moments, à éviter de faire du prêt et à éviter du gros temps et que tout le monde soit content à bord. En naviguant dans des meilleures conditions, quoi. Voilà. Donc l'outil Best Start de chez Squid.
Bah du coup pour en revenir à des sujets un peu moins effrayants que la sécurité, on va finir par tes projets à toi maintenant. Je sais que le confinement a changé la vie de beaucoup de marins et beaucoup de choses dans le genre. Qu'en est-il pour toi ?
Oui, bah effectivement, je pense que le monde de la voile de compétition vivait des beaux jours jusqu'avant cette crise sanitaire. On va bien voir à quel point ce sera différent dans un futur proche ou à moyen terme. J'espère le moins possible différent. Pour moi, en fin de compte, j'avais décidé de travailler sur 2 projets cette année uniquement, à la différence des années précédentes où j'en avais 4. Donc j'ai restreint le nombre de projets pour finir un truc qui me tient à cœur, c'est-à-dire j'ai dessiné un bateau il y a 2 ans et demi, un petit bateau de 3,35 m qui est en fait un laboratoire de recherche sur les foils, où on peut les bouger dans tous les sens. Et donc, comme c'est des projets qui avancent l'hiver essentiellement, puisque l'été je suis sur mes circuits de course, j'ai décidé cette année de finir le projet et de me focaliser un peu là-dessus pour le finir et l'utiliser un maximum, parce que c'est un bateau qui est techniquement hyper intéressant. Donc ça rejoint mon premier amour de la technique. J'ai plein de trucs à apprendre de ce bateau-là et c'est des trucs qui vont me servir pour la course. Donc voilà, donc j'ai, de ce point de vue-là, ça m'impacte un peu moins que ce qui est des courses, du circuit de course international, parce que c'est un bateau laboratoire. Par contre, effectivement, sur le mode international, donc là c'est mon bateau de prédilection, les courses, je devais commencer le 20 mai pour une saison avec plusieurs nationaux de plusieurs pays, puis des régates internationales en Italie, en Angleterre, jusqu'au championnat du monde qui devait avoir lieu en septembre en Angleterre. On sait que les courses vont être plutôt reportées. Pour l'instant, les courses sont reportées à août-septembre, mais pour l'instant avec un gros point d'interrogation parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état sera la planète. Au niveau sanitaire, on sait pas comment seront les frontières et tout. Donc, aujourd'hui, j'ai aucune idée de si je vais avoir une année sportive ou non sur ces circuits de course. Donc, c'est un peu, ça fait aussi partie de la vie des marins d'improviser. Donc, je continue à improviser tant que je peux, même si c'est pas très agréable.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça nous a apporté beaucoup d'informations intéressantes.
Avec plaisir.
Continuation à toi pour la suite. J'espère que tu pourras reprendre les courses d'ici pas trop longtemps et en attendant que ton projet se déroulera au mieux.
Merci. C'est gentil. Bonne navigation à tous, en tout cas. Et surtout, prenez soin de vous et attachez-vous. Le message de la fin.
Merci à Benoît Marie et merci à vous de nous avoir suivis. S'il y a d'autres professionnels du monde de la voile qui vous intéressent, dites-le nous dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous aussi les interviewer pour vous. Et en attendant, retrouvez-nous sur le blog.